Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture.
Bienvenue au Salon du livre en mode virtuel. Nous sommes dans l'édition 2020 de ce Salon du livre de Montréal. Je m'appelle Claudia Larochelle et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir en confidence d'écrivain nul autre que José Lito Michaud, parce que José Lito vient de faire paraître aux éditions Libre Expression, trois mois tout au plus. José Lito, c'est ton plus récent roman, celui-là. Un roman, tu me disais que tu as pris beaucoup de plaisir à l'écrire.
Bien, contrairement, d'abord, de dire le mot écrivain, je vais faire une petite rectification, je me considère un auteur. Ouais. Peut-être que jusqu'à la fin de ma vie, je vais me considérer plus un auteur. Parce qu'un auteur, quand tu le regardes dans le sens large du terme, c'est un créateur de quelque chose, d'une œuvre. Un écrivain, j'ai l'impression que je ne suis pas un écrivain, parce qu'un écrivain, c'est comme une catégorie à part. Puis je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça. Je ne veux pas te reprendre, toi, tu le fais tellement bien. Mais moi, quand je l'entends, je me dis toujours, j'écris, je crée des choses, mais je suis loin d'être un écrivain. Parce qu'un écrivain, c'est comme un Denis Laferrière. C'est comme quelque chose qui est... Je ne sais pas, il y a quelque chose de...
Je suis assez d'accord avec toi à ce sujet-là. Je disais confidence d'écrivain, surtout parce que c'est le titre de cette série de rencontres. Mais je suis d'accord qu'un écrivain... Je dirais que c'est quelqu'un qui se consacre à son art d'une manière entière, dans sa totalité,
absolument.
Qui fait à peu près que ça.
Ouais. Ce qui est pour mon cas.
Et c'est ça. Ben, moi, là, d'ailleurs, quand à chaque fois que j'ai l'occasion de lire sur ce que tu fais, de suivre tes projets, José Lito, je suis assez étonnée de voir à quel point tu es, je vais dire l'expression en anglais, multitask.
Ouais.
C'est fou. Plein de petits tiroirs.
Oui, absolument.
C'est comme on fait plein d'affaires en même temps. Et le passé aussi que tu as, comme tu as travaillé comme...
Manager longtemps, producteur de disques et tout ça.
Oui, même éditeur de magazines.
Oui, absolument, c'est vrai. J'oubliais ça,
Il y a tout eu. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, de cordes à ton arc et l'écriture.
Oui.
Et puisqu'on se rend compte pour ça, l'écriture d'un roman, ça demande beaucoup d'introspection, un regard sur soi. Alors, dans ce mode-là, tu n'es pas dans le même mode que quand tu es justement manager, producteur, même intervieweur pour tes émissions. Tu es capable de passer du mode... extraverti à introverti?
Ah, c'est incroyable, cette capacité que j'ai d'être un caméléon. C'est incroyable. Mais, pour faire une... On est dans les confidences, j'ai trouvé ça plus difficile, ce changement-là, à faire dans la même journée. Moi, j'écrivais à tous les matins. C'était volontaire pour moi d'écrire à tous les matins. C'est là que je me sens le plus inspiré. Puis après ça, je tombais dans des meetings pour autre chose, puis je me disais... La prochaine année, je serai plus ça comme ça. C'est-à-dire, je vais en faire d'autres projets, mais je vais peut-être emmener juste 3-4 de front. J'en ai parfois 10, 12, 13 de front entre 4 séries en développement, une qui va se produire, ma série. Je trouvais ça, à un moment donné, très difficile. Quand est arrivée la COVID, parce que ce livre-là est issu de la COVID. Il s'est terminé dans le temps de la COVID. Alors que j'ai interviewé beaucoup de gens en leur demandant s'ils étaient inspirés pendant le temps de la COVID. Puis la majeure partie des gens disaient non. Moi, j'étais terriblement inspiré parce que soudainement, et ça va exactement être la question que tu me posais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, j'ai plus à faire ce meeting-là, j'ai plus à faire ça, je vais faire mon métier d'auteur, je vais prendre plus de temps, je vais finaler ça après, et j'ai adoré ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, donc je vais réduire, là j'en prépare un autre encore, je vais encore réduire ça pour être capable de me consacrer au moins le tiers de mon temps d'écriture.
On va parler d'Olivier, ce fameux... Ce bel être humain qui est Olivier, c'est ton alter ego.
Oui, c'est lui mon alter ego.
C'est ça, hein? On reconnaît vraiment ta joie de vivre, mais en même temps, il y a comme deux faces à ça. Il y a un côté très mélancolique aussi chez Olivier.
Oui, beaucoup.
Il y a une forme de sensibilité aussi à fleur de peau.
Une hypersensibilité.
Oui, une hypersensibilité.
Ouais. Une lucidité de la vie.
C'est ça.
Une grande lucidité de la vie. Ouais. Tu sais, Olivier Dubreuil, j'ai donné ce nom-là au départ quand je me suis mis à l'autre livre à raconter une partie de mon enfance que j'avais mélangée avec celle d'autres enfants pour pas offusquer personne. Parce que quand tu commences à aller dans quelque chose un peu plus autobiographique, il est possible que tu écorches des gens au passage. Mais moi, quand j'ai écrit Dans mes yeux à moi, c'était dans le but de dire faites attention à ce que vous dites aux jeunes. Ils entendent et ils comprennent tout.
Ouais.
Donc, les mots durs, les violences psychologiques, physiques, ils ont encore des traces de ça. Donc, quand je suis arrivé avec le deuxième livre, je me suis dit, avec ce livre-là, je me suis dit, j'aimerais ça le voir où il est rendu à 50 ans, cet homme-là. Mmh. Et il arrive à 50 ans, puis il est confronté à... C'est drôle parce qu'il est devenu populaire, il a réussi ce qu'il voulait, 20 ans animateur d'un talk show, mais je pense qu'il n'est pas totalement heureux.
Non. Ça se peut.
Ça se peut. Puis il se dit, finalement, la gloire, ça règle pas tous les mots M-A-U-X. Peut-être en mettre des mots M-O-M-E-T-S pour dire qu'est-ce que je veux tant de cette vie-là. Et il est confronté à un verdict qui fait en sorte qu'il doit se dépêcher à tout comprendre avant de partir.
Ouais. D'ailleurs, on le précise que ce livre-là, 3 mois tout au plus, qui surgit quelques années, parce que le premier a été écrit en 2011.
2011, hein? Et la série en 2017.
C'est ça, Dans mes yeux à moi. Après ça, il a été réédité, Dans mes yeux à moi.
Effectivement, en 2012. En 2011, au moment de la sortie du livre, la série Olivier.
Un succès. Puis après ça, il y a eu la série Olivier, oui, écrite par Serge Boucher.
Exactement.
Et là, il y a celui-là.
Effectivement.
Donc, mais tout ça se prend indépendamment. Hein?
Absolument, absolument.
La base, pour ceux qui ne connaissent pas ce Olivier Dubreuil-là, dans le premier livre, écrit donc publié en 2011, c'est un petit garçon qui a fait des foyers, des familles d'accueil, qui est pas favorisé par la vie, là, nécessairement. Là,
non, mais il y a un espoir. Il s'accroche à ses 18 ans. Comme une espèce de il y a un mantra qui se dit tous les jours, il me reste combien de temps à faire pour obtenir ma liberté? Qui ne sera pas conditionnel. C'est vrai, quand tu le regardes comme ça, ça a l'air, je te vois réagir, tu as raison, c'est terrible. Mais c'était sa façon de traverser ces familles-là, de traverser cette vie, parce que c'est un enfant qui était balatté d'une famille à une autre. Mais moi, je pense toujours que, moi j'aime parler de l'enfance pour dire qu'on a une responsabilité. On aura toujours cette enfance-là à traîner. Toujours. Traîner, ça veut dire beaucoup pour moi quand j'utilise ce mot-là. À l'avoir avec nous, à l'avoir ici accroché comme un boulet. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Et moi, j'ai voulu transcender ça. Mmh. J'ai pas tout réussi ce que je voulais transcender, mais j'ai réussi à transcender dans la création. J'ai réussi à transcender en observant le monde autour de moi, en me disant, je ne suis pas seul. Il y a des vies beaucoup plus difficiles que d'autres. Mmh. Et c'est pour ça que je voulais démontrer dans ce livre-là qu'il a réussi, ce Olivier-là, malgré toutes les séquelles de cette vie-là, balloté d'une famille à une autre, mais il a trouvé quand même une certaine forme d'équilibre. Mais il faut qu'il se dépêche à comprendre avant que tout s'arrête.
Oui, il va falloir qu'il se dépêche, puis on va voir pourquoi.
Ouais.
Et il va donc décider de régler certaines choses, ouais, avec son passé, avec, ouais, ses racines, ses, mm-hmm, gènes, ses origines. Il va partir à la recherche de ses origines, finalement, un
de
peu
son
plus.
Père biologique.
De son père biologique.
Comme il connaît sa mère biologique, on a compris dans le premier livre.
Oui.
Là, il s'en va vers son père biologique, qu'il a appris de la bouche de sa mère, atteinte d'Alzheimer, qui lui raconte l'histoire, son histoire, une histoire d'amour qu'elle a connue. Il se rend compte que elle parle de son père à lui,
ouais,
et la véritable identité de son père. Et il se dit, mais il est où cet homme-là? Il découvre qu'il est mort et il s'en va à New York. C'est pour ça que New York est à l'envers sur la page de couverture du livre, sur la jaquette, parce que justement, ça, tout va chavirer à New York. Sa vie va basculer quand elle va arriver à New York pour aller sur les traces de son père qui est mort. Il va découvrir ce qui se passe derrière cette histoire-là de son père.
Mm.
L'histoire de son père.
En écrivant ça, José Lito, est-ce que, en même temps, tu as l'impression que toi-même, tu réglais des choses avec ton passé?
Bien sûr.
Oui, hein?
C'est inévitable parce que moi, quand les gens disent « c'est pas moi », mais oui, c'est toujours une grande partie de soi. Tu ne peux pas écrire sur quelque chose que tu ne connais pas. Mmh. Du moins un roman, il faut que tu sois vraiment... Mais naturellement, c'est mon alter ego. Donc, il dit des choses que je n'oserais pas dire publiquement. Et il a la chance d'avoir une identité à lui, Olivier Dubreuil. Quand j'ai compris que c'était mon alter ego, ce livre-là était beaucoup plus facile parce qu'à un moment donné, j'ai dit, dis-le, nomme-le, tu vas te censurer après. Et je ne me suis pas censuré après. J'ai dit ce que j'ai envie de dire sur ce métier de la gloire qui apporte absolument rien. J'en parle beaucoup de ça sur les mensonges, les vérités, parce qu'il y a beaucoup de questions de sang dans ce, oui, livre-là. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Pourquoi on ment? Pourquoi on ne dit pas toujours la vérité?
Oui. Qu'est-ce qu'on révèle de soi? Qu'est-ce qu'on garde pour soi?
Effectivement, c'est tout ça. C'est ce combat entre je dis, je ne nomme pas, puis comprendre l'autre, pourquoi il a dissimulé des informations? Pourquoi on cache? Pourquoi on ne dit pas tout? Et on est dans une vie où on cache beaucoup de choses. Quand je dis cacher, c'est-à-dire chacun ses vérités, chacun ses secrets. Et puis je pense que ce livre-là traverse, transperce ça. Et lui, il n'a certainement plus un goût de se mentir. Comme il y a une alternative, il reste 3 mois tout au plus à vivre.
Ouais.
Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Ben, je vais partir à la recherche de mon père biologique et à la recherche de moi, de soi. Qu'est-ce que je vais découvrir sur moi que je ne connaissais pas auparavant parce que j'étais toujours dans le travail, en train d'être sur les feux de la rampe à essayer d'être quelqu'un? Parce que c'est pas pour rien qu'il est allé publiquement. Il voulait exister dans les yeux de quelqu'un.
On cherche l'amour aussi, on veut être aimé.
Bien sûr.
C'est ça, il y a cet intérêt-là aussi derrière ça. Toi, José Lito, si on disait il te reste 3 mois tout au plus à vivre, tu ferais quoi?
Ah, je ferais certainement comme lui. Je reste seulement à la recherche de mon père biologique enterré à New York, oui. Ça ressemblerait à ça, oui.
Donc, c'est vraiment prêt, les deux histoires.
On est pas mal prêt.
Pas mal.
On est pas mal prêt. Puis, je serais certainement collé sur mes enfants et ma blonde et quelques amis proches.
Oui, absolument.
Puis, et mon Dieu, que je leur dirais ce que j'ai compris de la vie. Parce que ça a été extraordinaire comme exercice dans le temps de la COVID, de faire ce livre-là, parce que je me suis dit, il faut toujours des allures de fin du monde pour comprendre qu'on doit prendre des prises de décision, on doit comprendre des choses dans la vie. Et puis, je me suis dit, ah là, je vais comprendre. J'ai pas besoin de me mettre un ultimatum pour comprendre.
Non, puis ça nous a frappé fort, ça nous frappe fort, cette pandémie-là. Ça fait réaliser des choses.
Oui, et ce matin, j'avais une amie à moi qui travaille non-stop, 70 heures par semaine. Je lui ai dit tout au long de ces 20 dernières années, fais attention à toi. Et elle me dit, imagine-toi la pandémie, j'ai découvert que j'avais une vie autour.
Wow. Ouais.
Et puis je pense que c'est ça. Puis j'ai entendu quelqu'un l'autre jour me dire, je ne connaissais pas mes enfants, je les connais maintenant.
Sais. Moi aussi j'ai entendu ça. Ouais. Bon, il y a du négatif.
Ah, il y en a plein.
Il y en a beaucoup. Moi aussi, c'est ce que j'entends beaucoup.
Il y en a beaucoup. Puis cette deuxième vague qui est forte, on dirait qu'elle est plus difficile que la première, elle est très anxiogène, elle nous inquiète énormément. Puis c'est pour ça que ce livre-là, pour moi, c'est un livre de réflexion sur la vie aussi. Si c'est ça qui nous attend, là, est-ce qu'on peut faire des changements maintenant dans nos vies?
Toi, tu as une profondeur, tu as une capacité de te remettre en question, de faire des mea culpa, de regarder beaucoup.
Oui.
Tu fais beaucoup ça, ce qui te permet de faire des entrevues aussi riches dans toutes les émissions que j'ai suivies, à travers lesquelles, mon Dieu, que tu reçois des confidences, des révélations, des choses incroyables. Je me dis, mon Dieu, que ça a dû te faire grandir au fil du temps. C'est pour ça beaucoup que tu fais ça. Là.
Oui, c'est un peu... Des fois, les gens disent que c'est extraordinaire d'élever les autres, mais c'est aussi un peu égoïste parce que à chacune des entrevues, avec une leçon que j'entends, puis c'est comme des perles que je mets dans ma boîte à caresses. Je fais souvent ça, je me dis, je veux comprendre ce que l'autre vit. José Tout au cœur du monde, qui est à Radio-Canada, c'est une série quand même où je suis allé voir des prisonniers, je suis allé voir des mères d'enfants qui ont commis l'irréparable, quand on a vécu des attentats, je veux dire, je suis allé voir dans des sujets très difficiles, puis je voulais aller là pour qu'on comprenne qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui pourrait nous frapper fort et qu'on devait nous-mêmes des victimes collatérales parce que justement, on n'a pas choisi. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ces humains qu'on ne voit pas. Je m'intéresse beaucoup à ces histoires qu'on ne voit pas. Je fais beaucoup de vedettes dans la vie. Je fais beaucoup d'artistes connus. J'en ai fait 16.
Ouais, mais je comprends. Puis ça fait du bien, je vous dirais. Je te dirais parce que moi, les vedettes, à un moment donné, je trouve qu'on en parle beaucoup, beaucoup.
Ben, ça te fait beaucoup d'émissions avec des vedettes.
Oui.
Je trouve ça extraordinaire. Mais en même temps, je vais entendre du monde.
Oui.
Moi, je ne dis pas le mot ordinaire. Tu sais, le choix des mots, c'est important. Tu es une grande lectrice.
Oui.
Moi, je dis des inconnus d'exception.
Ouais.
J'aime les appeler ainsi parce que c'est pas parce qu'on les connaît pas qu'ils sont pas exceptionnels. C'est l'histoire qui est importante pour moi. Comme on la raconte, comme on la dit. Et je trouve que moi, en tout cas, moi, j'adore mettre ces inconnus dans la lumière. Et je suis très content que ça marche. En plus, ça marche. C'est-à-dire que tu peux mettre ça, puis il y a un risque là, que ça ne marche pas. Mais on fait des parts de marché exceptionnelles au-delà de 20, 22, 23 parts de marché dans une émission avec des inconnus. Je trouve ça extraordinaire. C'est un beau signal à envoyer ça dans les réseaux de télévision.
Oui.
Mettez des...
Plus,
davantage. Absolument.
Oui. Puis dans l'émission, on prend toujours un train aussi. Il y avait ça aussi,
beaucoup, les deux
ces histoires-là. On les fait parler, ces
gens.
On fait parler les êtres humains en général parce que tout le monde a une histoire à raconter.
Bien, je veux dire, c'est parce que c'est ça que je découvre. Moi, quand je vivais ce que je vivais dans mon enfance, là, je regardais beaucoup Jeannette Bertrand, qui était assise sur un fauteuil en rond, je me souviens très bien. Puis je me disais toujours, ah, OK, moi, ma vie, c'est ça. Chacun transporte son lot. Chacun a sa propre histoire, puis il faut juste s'y intéresser.
Oui, c'est ça. Et quand on écrit comme ça, un livre, un autre, puis on est dans la fiction, puis il y a eu d'autres livres aussi qui n'étaient pas nécessairement de la fiction. Là, on était plus dans quelque chose de l'ordre de l'essai.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression de laisser quelque chose derrière toi? Dieu. Parce que comme tu es beaucoup dans la transmission d'un certain savoir, ou en tout cas par le biais de gens que tu interviews, c'est sûr que laisser un livre, c'est laisser des traces derrière soi.
Oui, moi, je ne le fais pas comme ça et que je n'ai pas cette prétention. Moi, j'ai toujours pensé qu'après, ça serait fini. Et puis, moi, ma croyance veut qu'une vie, autre vie, là. Mais je parle publiquement, l'espèce de pérennité, c'est de ce dont on parle. Moi, je ne travaille pas pour ça. Mais c'est vrai qu'un livre, plus que des émissions de télévision encore, un livre, c'est particulier. La première fois que tu touches un livre, quand tu le reçois, il est imprimé, tu le reçois dans tes mains, là, c'est un moment magique. Parce que tu sais, effectivement, il peut traîner sur des tables longtemps. Il peut être à côté. Ça accompagne un livre. C'est un rapport extrêmement intime avec son lecteur. Oui, dans ce sens-là. Mais je ne fais pas les choses pour la transmission. Je fais juste les choses.
Tes filles, elles.
C'est sûr que mes enfants, eux autres, ils regardent ça comme tu viens de me dire. Moi, je ne le regarde pas de même. Moi, là, ce que je veux juste, c'est de comprendre le plus vite possible ce que je dois comprendre sur cette terre-là avant de partir. Moi, je suis très préoccupé par... puis, quand je vois des gens qui disent « je m'ennuie », moi, je dis « comment tu peux t'ennuyer? » Moi, j'ai au moins 250 livres dans ma bibliothèque qui attendent pour lire, être lus, pardon, et que j'en ai toujours 5-6 en chantier, j'en ai 2-3 par semaine. Donc, je comprends pas, moi, qu'on puisse... Donc, j'essaie de plus s'ennuyer. L'ennui, je connais pas ça, moi. Donc, ça m'intéresse de dire « qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? » En lisant, en écrivant, en écoutant les autres, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Donc, je suis plus préoccupé par le présent que la transmission.
Est-ce que il va y avoir une suite à 3 mois tout au plus? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à retirer de ton histoire, de ton vécu, selon toi?
Moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose à dire parce qu'à tous les jours, j'apprends. Je m'en viens tout à l'heure, puis quelqu'un qui me parle suite d'une entrevue que j'ai faite il y a 2 semaines, puis il y a toujours une histoire invraisemblable. Il y a toujours quelque chose je m'en vais marcher encore tantôt au Parc Saint-Bruno, puis je suis allé hier, j'ai fait 4 fois par semaine, puis j'entends les gens m'arrêter puis me raconter leur histoire. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse de la vie. Puis je trouve que c'est un privilège où je me retrouve aujourd'hui à l'âge que j'ai. C'est un privilège. Moi, je suis très reconnaissant de la place que j'ai encore dans ce métier-là, parce qu'on peut vite être poussé par les jeunes, et puis j'ai rien contre les jeunes, mais ils n'ont pas notre expérience, tu sais. Je veux dire, donc, apprends sa voie de service, tu auras sa voie pouvoir métropolitain après, mon jeune homme, ma jeune fille, puis fais tes classes, puis travaille bien. Puis je pense que ça prend un équilibre dans une programmation, ça prend un équilibre. Puis les nouveaux auteurs sont très intéressants parce qu'ils sont beaucoup plus impudiques que nous. Ils vont. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de nommer. Ils sont décomplexés, la nouvelle génération. Ils sont complètement, je pense à Xavier Dolan, complètement décomplexé, complètement assumé ce qu'il est. Nous, ça a mis du temps avant qu'on assume. Je vais parler pour moi, ça a mis du temps avant que j'assume qui je suis. Ouais. Ça a peut-être pris 50 ans, j'en ai 55. Ouais. Il était temps.
Mais tu as fait parler les autres. Ça, par contre, accueillir, leur confidence. Ouais. D'ailleurs, tu parles que quand tu vas marcher, les gens viennent vers toi, tout ça. Je me dis, mais c'est vrai que ça doit... Il doit tellement y avoir de gens qui sont... t'attirent le monde, une espèce beaucoup. De magnétisme, beaucoup. C'est comme une aimant. Là. Les gens veulent se confier, beaucoup. Les gens ont beaucoup d'histoires à raconter.
Ils vont faire des sourires. Des fois, c'est comme, là, je marche, puis ils me font un sacré sourire, mais un des beaux, soit des beaux sourires. Puis là, ça fait « merci ». Puis là, ça s'en va, ou ça va me raconter leur histoire. Sauf que c'est vraiment quelque chose de particulier, ce que je viens d'aimer, qui me faisait remarquer l'autre jour, et il dit « je t'écoute jamais te raconter ». Puis j'ai fait, je me raconte pas parce que j'ai jamais envie de me raconter. Donc, j'ai remarqué que j'écoutais beaucoup plus que moi, je dis ce que je vis. Fait que c'est très rare que je veux dire, moi, comment je vais pas bien, mettons. C'est très, très rare. À ma blonde, oui. À un ou deux intimes, mais ils tombent des nus, là, quand ils apprennent que je vais pas bien. Parce que j'ai pris toute la place pour les écouter.
Mais il faut te lire d'abord dans ta fiction. Là, on comprend qu'il y a eu des bouts plus rough, disons.
Bien sûr, c'est ce qu'on comprend. Même dans ce livre-là, on comprend.
C'était pas juste de la joie et de l'allégresse.
Non, mais c'est toujours qu'est-ce que tu fais avec. C'est toujours ça. Tu sais, chacun, comme tantôt j'ai dit, transporte son lot. Qu'est-ce que tu fais avec l'apprentissage? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que je ne serais pas l'intervieweur, l'auteur que je suis, si je n'avais pas vécu cette vie-là. Mm. Des fois, je m'imagine une vie où je suis encouragé, stimulé, réconforté par des parents aimants, puis dans toute une vie. Je ne sais pas ce que ça aurait donné avec le caractère que je ne sais pas ce que ça aurait donné. Je ne pense pas que j'aurais été cet individu-là.
C'est quoi ton caractère quand tu dis avec le caractère?
Ah, j'ai une personnalité forte, j'ai du caractère. On ne me tue pas, moi.
Non,
on peut même me détruire par des mots. Quand j'étais tout petit, on me détruisait par des mots. Mais on ne pouvait pas me détruire. On tentait de me détruire par des mots, mais c'était impossible. Je me souviens encore de mon regard à 5 ans, 4 ans. Il n'y avait rien qui passait. J'avais peur de rien. J'avais pas peur de ça parce que il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « ça va durer le temps que ça dure ». Je me suis accroché à une date. Je me suis accroché à mes 18 ans. Je me suis accroché à une sortie de secours. Ça, c'est ma force de caractère. Mais j'ai des séquelles de ça, une hypervigilance. Je suis hyper vigilant, c'est-à-dire un état d'alerte constant qui est terrible, mais que je suis en train de soigner et qui va très, très, très bien grâce à l'hypnose. Donc, t'es en train de me sauver la vie.
Cette hypervigilance-là, ça doit nous empoisonner l'existence.
Je disais, tout à l'heure, je suis arrivé ici, là, habituellement, là, j'aurais vérifié toutes les issues de secours.
Mais voyons!
Ah oui, c'est terrible. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis assis en me disant, il n'y arrivera rien, tu peux commencer l'entrevue. Donc aujourd'hui, je vais dire à ma femme tantôt, j'ai guéri. Je suis guéri en partie. J'ai passé 55 ans à imaginer le pire et avoir peur de l'impossible. Mais c'est terminé.
On les voit, les marques, quand même, chez Olivier Dubreuil. On le sent qu'il y a cette espèce, probablement, peut-être d'hypervigilance, lui aussi. Oui. Et lui, par contre, contrairement à toi, sur le plan sentimental, ça a été un peu plus houleux, quand même.
Oui, c'est une vie particulière dans l'attachement.
C'est ça.
Dans l'attachement. Tu sais, à quoi bon, il dit une phrase, à un moment donné, je dis une phrase pour lui, je dis, à quoi bon s'attacher si tout peut se détacher? Tu comprends? À quoi bon se lier si tout peut se détacher? Et c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a des difficultés jusqu'à temps que sa mère biologique lui dise, dans un élan, j'allais dire, de lucidité dans l'Alzheimer, lui dit, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais je sais que je vous aime. Et lui, il se dit, ah, elle m'a donné le sceau d'approbation. Maintenant, je peux aimer.
Oui. L'amour de l'autre, c'est donc important, cet amour-là, capital. Cette reconnaissance. Ouais. Hein, c'est pour ça aussi que, comme tu le disais, que tu fais ce métier-là aussi. Il y a la curiosité de l'autre, mais c'est peut-être inconsciemment, on cherche aussi une espèce d'approbation.
L'approbation, pas l'amour. Ouais. Tu vois, je suis content que tu as choisi le mot approbation. C'est l'approbation.
L'approbation.
Bien plus que l'amour. Parce que tout ça, c'est illusoire. Penser que les gens t'aiment. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, j'ai dû entendre cette phrase-là au moins 200-300 fois de ma vie.
Et qu'on vous aime, vous.
En plus que ça, merci d'exister.
Ah, purée, excusez.
Non, mais un peu. Moi, j'ai dit, on m'a jamais dit ça dans ma vie, merci d'exister. Donc, comment on peut me dire ça? Ça m'avait beaucoup bouleversé,
oui,
ça.
Oui, je comprends.
Merci, c'est quelque chose, merci d'exister. C'est comme, wow, penses-tu que je crois ça? Je ne crois pas à ça, moi. Je crois, et l'amour, c'est un amour, tu peux pas aimer quelqu'un que tu connais pas, tu peux avoir de l'admiration, tu peux aimer son travail. Fait que moi, je suis très lucide, hein? Je t'ai dit dès le départ, je suis extrêmement lucide. Donc, je ne crois pas les mauvaises critiques au complet, puis je crois pas les bonnes critiques au complet. J'essaie de mettre un équilibre là-dedans, mais j'entends, là, quand quelqu'un aime quelque chose, pour fou, je l'entends, puis je trouve ça agréable, mais ça me flatte pas longtemps, l'ego, vraiment pas.
Ça m'amène à ce titre de livre qui est encore tellement d'actualité puis qui m'avait vraiment fascinée sur la gloire démystifiée. Gloire démystifiée avec des personnalités qui sont sous les feux de la rampe toujours, des artistes, des personnalités très connues, très célèbres qui ont connu leur descente aux enfers puis on en connaît encore dans les médias qui ont été là.
C'est ironique, Claudia, dans mon livre, il y a Gilbert Rozon, Éric Salvaille et Éric Lapointe.
Wow! Donc, il faut relire ça, là.
Bien, je veux dire, c'était très intéressant de voir ce qu'il disait à l'époque. Très intéressant par rapport à la gloire, justement.
Oui, tout à fait. Puis ce serait très étrange aussi d'aller voir la réaction actuelle de ça.
Oui, c'est particulier.
Parce que cette gloire-là est éphémère. Et c'est ça qui ressortait de ce livre-là aussi.
Bien, c'est-à-dire que si tu... Et David Bélanger disait, qui était dans le livre aussi, disait, ce sont des calories vides. C'est-à-dire, tu penses que ça va te rassasier, mais ça complète rien. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans l'équilibre, il n'y a rien qui va fonctionner là-dedans. Ça, c'était ma plus grande désolation dans la vie.
De constater ça.
Ah, c'était terrible. Je me souviens encore...
Parce qu'il faut le chercher ailleurs après.
Ben parce que tu te dis... Je me souviens, j'étais au talk show de fin de soirée, j'avais, toi, 39 ans. J'étais au talk show de fin de soirée à TVA. Je suis le midi au réseau de détente à travers le Québec. Je fais devine qui vient ce soir. Et puis, tu peux pas là être plus que ça. Puis, je viens de faire Star Academy, puis ça. Tu peux pas être plus que ça. Et je me souviens que j'ai trouvé que c'est l'année la plus triste de ma vie parce que je disais, oh, ça ressemble à ça. OK, ça ressemble à ça. Ah, oh, c'est ça, être connu.
Être partout, être connu.
Être partout,
c'est ça.
Les panneaux partout, quelques parodies de Marc Labrèche. Écoute, j'étais partout. Et là, je me disais, ben voyons donc, c'est ça. Écoute, je peux te dire, je me souviens comment je marchais. J'avais marché le dos droit. Et pourtant, j'allais à tous les. Écoute, je me souviens d'avoir demandé à ma blonde après. 2 semaines, il me reste combien de shows à faire? Elle m'a dit, t'en restes 120 à faire en télé, 172 à faire en radio. Tu peux refaire, on va les faire. Comme Olivier, quand il regarde, c'était moi aussi beaucoup, qui disait, faut t'attendre jusqu'à 18 ans, parfait. Combien de jours à faire? Je vais les faire. Et j'ai pas aimé ça tant que ça. Aujourd'hui, je l'apprécierais davantage parce que je suis complètement ailleurs. Mais non, c'était pas si le fun que ça.
Puis il y a moins de pression aussi en vieillissant, j'imagine.
Mais il y en a toujours. Tu sais, la série que je viens de sortir à Radio-Canada, comment tu as une pression de code d'écoute, puis il faut que ça fonctionne. Puis quand tu sors un livre, il faudrait le fun d'en vendre quelques-uns. Puis tu as cette pression-là. Mais en même temps, je ne suis pas à la recherche des résultats. Oui, parce que tu es obligé de dire à un diffuseur, il faudrait que ça marche. Mais moi, j'essaie d'apprécier le chemin parcouru. C'est les bouddhistes qui disent ça.
Ouais.
Le chemin parcouru est aussi important que le résultat. Maintenant, je veux trouver du bonheur à le faire. Puis entre autres, tu parlais, est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas s'il y a une suite à ces livres-là, parce qu'en principe, il meurt, cet homme-là.
Mais c'est ça, là.
Mais je dirais, il y a un autre livre en chantier, ça, c'est clair.
Oui, oui. C'est là que je voulais aller avec toi, de voir un peu comment l'aventure de la fiction est encore présente puis va continuer d'être présente dans le long terme avec toi.
C'est sûr que oui, d'autant plus que là, je produis des séries télé, des séries de fiction.
Oui, c'est ça, c'est assez...
C'est nouveau, mais oui. J'avais fait la série Olivier en 2011, et là, j'en fais une autre à TVA, Le Chaos, qui est une idée originale de moi. C'est, je suis avec un synopsis d'une vingtaine de pages, puis on est parti le faire en fiction. Je suis heureux, ravi de faire ça. Donc, de raconter des histoires, je pense que c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours.
Oui.
Si c'est possible de le faire, je vais le faire. Donc là, je suis sur 3 séries en même temps actuellement. Une qui s'en va en tournage, 2 en développement actuellement. Plus l'écriture d'un 5e livre.
Donc, tu n'arrêtes pas finalement. Tu revis une espèce de...
J'arrête pas.
Mais on est plus derrière, alors...
Ouais, oui, mais je vois... En principe, je reviens aussi à Radio-Canada. Ouais. Donc, en principe, c'est si la tour le veut.
Ouais.
Mais non, mais sérieusement, je vais revenir. Mais comme je fais des documentaires, tu vois, c'est encore des histoires à raconter. Si tu me disais demain matin, est-ce que tu ferais un autre talk show de fin de soirée? Non. Est-ce que tu ferais un show que d'entrevue? Je pense pas. Je pense pas. J'aime ce que je fais actuellement de documentaire parce que c'est encore une histoire à raconter. Ça prend un début, un milieu puis une fin. Mmh. Et pourquoi j'aime ça écrire le prochain livre encore un roman? Parce que j'ai encore une autre histoire à raconter qui m'est venue. J'étais sur le feu de circulation. J'ai fait « Ah ben oui. Ah ben oui. » Ça, c'est un concours de circonstances qui va faire qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'aime beaucoup, moi, ces pertes d'innocence. Tu penses que... Tu sais, qui aurait dit qu'au début 2020, là, quand on a célébré à 1h du matin la nouvelle année de 2020...
Oui, je repense souvent à cette scène-là.
Toi aussi? Moi, j'arrête pas de penser à celle-là.
Aussi,
t'es d'accord avec moi?
Oui.
On célèbre, puis on dit 2020. Wow, quel beau chiffre,
ouais.
Tu te souviens?
Ouais.
Tout le monde a vécu ça de la même manière. Mm. Et je me souviens, après ça, c'est l'anniversaire de ma femme, 65 ans. Il y a 65 personnes à la maison, cadeau.
Oh!
OK? Je me souviens encore de ce moment-là. Je dis, wow, on est heureux. Tout le monde apporte un buffet, une partie du buffet, un repas qu'ils aiment préparer. C'était magnifique. 3 semaines après, terminé.
Fini.
Et je me suis dit, c'est ça pour moi qui me fascine dans la vie, la perte d'innocence. Tu penses que quelque chose est là, mais tout bouge.
Je sais.
Et il faut juste s'adapter à ce qui bouge.
Toi qui as tâté le pouls là, des gens, de leur humanité, de leur cœur, de leur âme, tu sais, parce que ça t'intrigue, puis nous, tant mieux, parce que nous, on en profite de ta curiosité. Comment tu penses que les gens, puis ils t'en parlent à Cube lors de ton balado aussi que tu fais avec les gens en temps de pandémie, comment tu penses que la population québécoise va se sortir de ça, vivre ça, on va avoir changé, oui. Il y a toutes sortes de prognostics par rapport à ça. Là.
Moi, je suis convaincu d'une chose, je ne l'étais pas il y a 3 mois, là, je suis convaincu.
Ouais.
Si on veut retrouver la vie d'avant, impossible. Pour faire un deuil de la vie d'avant,
ouais, hein?
Elle n'existera plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de traces maintenant. C'était particulier, quand j'ai fait ces entrevues-là pour Cube Radio, pour la série après, on était en pleine fin de la première étape. On ne pensait pas à la vague. Mais non, il faisait beau, il faisait chaud, on était bien, on avait retrouvé la terrasse, on était heureux, puis on se disait, ça a duré 2 mois, tant mieux, on passe à autre chose. Moi, tout le monde se disait, on se méfie de ça, parce que ça peut arriver. Là, maintenant, ça ne sera plus jamais pareil. C'est pour ça que, est-ce qu'on a compris quelque chose? Moi, je pense que si on veut tant retrouver la vie d'avant, on va être triste. Là, ils se sont rendus compte des études énormes. 50% des gens et plus vivent de l'anxiété. Ceux qui étaient déjà anxieux, de l'anxiété aiguë, beaucoup de dépression, beaucoup de tentatives de suicide, parce que c'est trop dur à vivre ce qu'on vit actuellement. Et là, tous ceux qui préconisaient le célibat, t'en as mis autour de moi qui disaient « Moi, je suis bien célibataire », disaient «
Ouais, on voit ça aussi, oui. »
« Oh, je pense que j'étais bien, moi, finalement, avec quelqu'un.
Ouais. »
C'était rassurant de savoir que j'étais avec quelqu'un. Il y a eu beaucoup aussi d'animaux domestiques. On a acheté beaucoup. D'un coup, on s'est dit, hey, ça nous prenait un animal de compagnie. Puis là, on s'est rendu compte qu'on peut se donner à des gens. Il y a quelque chose qui est ouvert actuellement. Mais, puis tout, il n'y a rien qui tient. Mais comme dit Nicole Bordelot, il est bouddhiste, tout passe et c'est ça. Ça va passer. Puis j'espère qu'on va évoluer comme société. Puis on va se rendre compte que les effets de ce qu'on se disait, la planète, là, bien, c'est tout ça qu'on paye actuellement. On paye quelque chose aujourd'hui. Puis moi, je trouve que c'est... Je pense à la génération de ma fille, 18, 19 ans.
C'est ça.
Mon fils, moi, j'ai peur pour
eux. Ah oui, toi, t'as un fils et une fille, je disais deux filles, OK. Ouais.
Effectivement, c'est deux enfants. Puis deux enfants que j'ai déracinés du Cambodge et du Vietnam. Ils avaient 6 mois à l'époque, 7 mois. Mais je vois aujourd'hui que je les regarde là, fonctionner dans la société, c'est pas le fun.
Non.
C'est pas le fun pour eux autres. Puis je me sens un peu coupable comme membre de cette société-là pour ne pas avoir peut-être ouvert les yeux bien avant sur ce qui allait se passer. On avait une certaine... Mais on avait tellement d'inconscience, d'insouciance à certaines époques. Voilà.
Mais on va être témoin de leur résilience.
On va être...
Et puis j'espère peut-être comme toi, tes enfants et d'autres vont trouver refuge dans l'art, dans la création.
Absolument.
Et puis toi, tu trouves refuge dans l'écriture.
Ah, moi, ça fait tellement
et
bien.
Puis on te remercie parce que c'est pour
merci.
Ça que t'es là, puis on peut parler de ce livre-là. Donc, José Lito Michaud, tu nous offres 3 mois tout au plus. Ça vient de paraître aux éditions Libre Expression.
Il y a quelques jours seulement.
Et oui, c'est la suite du best-seller Dans mes yeux à moi qui a inspiré la série télévisée Olivier, mais on peut le lire indépendamment, bien sûr. Merci beaucoup pour tes confidences.
Merci
beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt dans un autre salon pour une autre confidence. Merci.
Merci.